Chapitre 13. Trois jours plus tard, une hôtesse frappa à la porte de Peggy pour lui remettre une combinaison de travail en nylon rouge. « Vous devez passer ça, » ordonna-t-elle d'un ton glacial. « Ensuite, je vous conduirai à votre nouvelle affectation. Vous ne devez rien emporter de ce qui se trouve ici. Les bijoux, les cadeaux du docteur Van Zittin seront placés sous séquestre. Vous les récupérerez à la fin de votre engagement. » L'époque des robes de soie était donc révolue. Peggy enfila le vêtement informe sans protester. Puis elle suivit l'hôtesse au travers d'un dédale de coursives dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elles s'arrêtèrent devant un ascenseur auquel on accédait au moyen d'un code. « Voilà, » conclut son guide, « c'est ici, montez dans la cabine. Quand vous serez là-haut, demandez à rencontrer l'Oyabon, le patron. Il vous expliquera ce qu'on attend de vous. » Peggy obéit. Le message qu'elle lisait dans le regard de la fille était clair. Il signifiait « Ma pauvre cocotte, je ne voudrais être à ta place pour rien au monde. » La cabine s'envola vers l'étage supérieur dans un chuintement feutré. Le voyage n'excéda pas 30 secondes. Quand les portes s'ouvrirent, Peggy découvrit un paysage fort différent de celui qu'elle venait de quitter. Ici, pas de décor 1900, pas de fontaine ni de statue de marbre, rien qu'une imbrication de canalisation grise, de cuves, de machines énormes. Une usine à gaz, où la chaufferie d'un paquebot songea-t-elle en s'avançant dans la travée principale. Un bourdonnement lancinant peuplait l'air. Un caillebotis métallique recouvrait le sol. Le gigantesque réservoir s'élevait du sol au plafond, telles les colonnes d'un temple dédié au dieu de la science. Peggy chercha le moyen de s'orienter. Des indications mystérieuses, ponctuées de flèches, avaient été peintes au flanc des cuves. L'une d'elles affichait la mention « Oyabon ». Peggy emprunta cette direction. 50 mètres plus loin, elle aperçut les premiers jardins. De petites maisons japonaises avaient été bâties au pied des cuves de métal, entre les tuyaux. Il s'agissait d'habitations fragiles et traditionnelles, composées de cloisons en papier de riz. Un petit jardin comportant un plan d'eau parsemé de nénuphars, un pont et des lanternes permettant aux esprits des morts de s'orienter, les entouraient d'une oasis surréaliste. Des femmes en kimono ordinaire allaient et venaient au cœur de ces curieuses enclaves, se livrant à 1000 travaux domestiques. Peu d'entre elles étaient de véritables asiatiques. Peggy s'approcha d'une barrière pour relayer une grande fille aux traits nordiques. « Salut !» lança-t-elle. « Je suis perdue. Je cherche l'Oyabon. »« Sumimasen !» répondit l'autre en s'inclinant. « Tu viens de débarquer, c'est ça ?»« Oui, » confirma Peggy. « C'est quoi ce cirque ? Vous jouez à un remake de Shogun ou quoi ?»« Non, » chuchota son interlocutrice. « C'est à cause de l'Oyabon. Il a le mal du pays. Alors il a décidé que toute la section vivrait à la japonaise. Faudra t'y faire. Le pire, ce sont les guettas. Ces foutues sandales de bois. Mais ne t'avise pas de rigoler. L'Oyabon n'apprécierait pas. Et ce n'est pas un type commode, tu peux me croire. » Elle finit par dénicher, coincée entre deux énormes cuves d'azote liquide, une esquisse demeure, entourée d'un jardin de pierre dont les allées avaient été ratissées selon les principes zen. Elle s'immobilisa à l'entrée, n'osant fouler les savantes figures que le jardinier avait dessinées sur les gravillons. Une vieille asiatique enveloppée dans un kimono brun s'avança alors à sa rencontre. Quand elle ouvrit la bouche, ce fut pour s'exprimer avec un fort accent nippon. « Toi être la nouvelle, » grinça-t-elle. « La Maiko, l'apprenti, c'est ça ? » ?»« Le patron t'attend. Lui, pas bonne humeur, alors toi, pas poser trop de questions. » Fille blanche, toujours poser question, pas savoir obéir. Mauvaise graine. Baka, baka, stupide, stupide. Peggy s'avança sur la pointe des pieds jusqu'à la véranda où elle se déchaussa. La vieille femme la poussa dans une pièce vide où un gros homme vêtu d'un yukata et limé fumait la pipe le regard éteint. Son allure était celle d'un sumotori à la retraite, mais qui continue à se nourrir de bière et de bœuf de Kobe pour ne rien perdre de sa masse. Ses yeux semblaient deux traits de pinceau appliqués au flanc d'une potiche de céramique jaune. Quand il prit la parole, ce fut avec un étrange accent british de gentleman de la City. « Je sais qui tu es, » dit-il après une brève inclinaison de tête. « Tu avais commencé une brillante carrière de Gaethje, mais le sort en a décidé autrement. Ainsi va la vie. » Ici, il ne sera pas question de séduction. Cet étage est un hôpital. On essaie d'y traiter les malades souffrant de claustrophobie. C'est une pathologie fréquente dans ce type d'environnement. Au bout d'un certain temps, les caractères les plus endurcis finissent par succomber aux névroses. Cela commence par des troubles mineurs du comportement. Des étouffements, des crises d'asthme, des angoisses. Puis les choses empirent, et l'on se retrouve bientôt confronté aux poussées maniaques. Il s'interrompit pour saisir une tasse minuscule posée près de lui et boire une gorgée de thé vert. « Pour parler simplement, reprit-il, les gens que tu croiseras au dehors sont tous atteints de folie à des stades divers. Ils ne supportent plus la claustration et ne rêvent que de s'échapper, de creuser des tunnels, de fuir la station. C'est impossible, bien sûr. Pour alléger leurs souffrances, nous les avons placés sous traitement. Ton travail sera celui d'une infirmière. Tu devras t'assurer que ces malheureux prennent bien leurs médicaments. C'est d'une importance capitale pour leur survie et pour la nôtre. Car lorsqu'ils entrent en crise, ils sont repris par leurs vieux démons, saboter la station. S'ils réussissent à ouvrir un trou dans l'une ou l'autre des parois, nous mourrons tous. Comprends-tu ? Peggy, qui s'était agenouillée devant lui, hocha la tête. Effectivement, si ce dingue faisait exploser le fuselage, il y aurait du vilain. La décompression explosive détruirait la moitié du complexe orbital en une fraction de seconde. Quant aux survivants, retranchés derrière la protection des portes étanches, ils périraient asphyxiés dès la réserve d'air épuisée. Tu ne devras pas te laisser attendrir par leur détresse, martela Loyaben. Ce sont des terroristes en puissance. S'ils ne tenaient qu'à moi, je les aurais jetés dans une cuve d'azote liquide depuis longtemps. Surveille-les de près, espionne-les. N'hésite pas à infiltrer leur rang si l'occasion se présente. Tous les moyens sont bons pour prévenir un nouvel attentat. Il eut un geste de lassitude et conclut. Voilà, tu sais le principal. Va retrouver l'Okasan, la directrice de la maison de thé. Elle t'expliquera la marche à suivre. Ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir l'œil. À présent, laisse-moi seule, je dois méditer. Peggy s'inclina maladroitement et quitta la pièce. La vieille femme l'attendait dans le couloir. Elle s'empressa de faire coulisser la cloison de papier pour clore l'espace personnel de Loyaben. Se retournant vers Peggy, elle lança « Toi me suivre. Fille Blanche va t'expliquer chose à faire. Attention. Travail mal fait, punition. » Elles quittèrent la maison pour gagner une petite cabane de bambou au fond du jardin. La construction abritait une pharmacie aux murs tapissés d'étagères, soutenant des bocaux emplis de gélules multicolores. Une jeune femme, penchée sur un comptoir, était occupée à répartir des pilules dans différentes boîtes plus petites. Quand elle releva la tête, Peggy reconnut Poppy Warlow. Une Poppy en kimono brun et chaussée de socques. « Ça alors !» s'exclama-t-elle. « Toi aussi ?» Poppy ne put répondre car la vieille femme s'interposa. « Pas de bavardage, vitupéra-t-elle. Chigoto, chigoto, travaillez. Fille gagine, paresseuse. Toujours fatiguée, méritez le fouet. » Elle finit par s'en aller en maugréant, laissant les jeunes femmes en tête à tête. Elles en profitèrent pour faire le point sur leurs mésaventures respectives. Elles tombèrent d'accord sur le fait qu'elles avaient l'une et l'autre joué de malchance. « Bon, c'est classé, on n'y peut plus rien, » soupira Poppy. « Alors, autant aller de l'avant, hein ?» Peggy nota qu'elle portait le kimono avec un grand naturel, comme si elle avait fait cela toute sa vie. Les socques ne lui posaient pas davantage de problèmes. Elle le lui fit remarquer. « Oh, ça !» souffla la jeune femme. « C'est parce que j'ai travaillé dans une espèce de haman japonais à Frisco. Un truc pour Youpi qui se la jouait Sarah Riman. » Elle avait prononcé ce dernier mot avec un accent parfait. Mais peut-être était-elle douée pour les langues ? C'est quoi toute cette dope sans qui Peggy en désignant les milliers de gélules entassées sur les étagères ? Des dilatateurs, expliqua Poppy Warlow. Un truc pour calmer les cinglés qui logent à cet étage, ceux qui souffrent de claustrophobie. Leur malheur, c'est qu'ils se sentent à l'étroit, comme enfermés dans une boîte, tu vois. Alors ils se font un film style enterré vivant et se mettent à suffoquer. C'est là que les dilatateurs entrent en scène. Ces médocs créent une illusion d'espace. Ils augmentent les distances, triplent les proportions. Comment cela, grogna Peggy, s'appliquant à jouer les idiotes.
C'est simple, insista Poppy. Quand tu es sous l'influence des dilatateurs, c'est comme si tu regardais le monde qui t'entoure par le mauvais bout de la lorgnette. Tout te paraît très loin. Cette pièce, par exemple, te semblerait aussi vaste qu'un hall de gare. Tu aurais l'illusion que le toit culmine à 50 mètres au-dessus de nos têtes. Bien sûr, ce ne serait pas réel. Juste une illusion, un tour de passe-passe, un machin fictif.
Ok, j'ai pigé, grogna Peggy. Notre boulot consiste à faire la tournée des bicoques pour visiter les dingos, continua son interlocutrice. Faut s'assurer qu'ils prennent leur médoc. Certains les planquent sous leur langue pour les cracher dès qu'on a le dos tourné. Toute cette section d'étage est une sorte d'asile où les fous sont laissés en liberté.
Pourquoi ?
Ce sont des gens importants, paraît-il, des scientifiques de haut niveau. On espère que le traitement va les guérir et qu'ils pourront reprendre leurs fonctions.
C'est de rester bouclés dans la station qui les a mis dans cet état. Certains ont débarqué il y a 6 ans.
Ils disent que les symptômes se manifestent au bout de 2 ans. Ça commence par des crises d'étouffement.
Voilà en gros ce qu'il faut savoir. Maintenant, je vais t'expliquer le code couleur pour les gélules.
Pendant l'heure qui suivit, Peggy dut mémoriser les traitements et leur répartition entre les différents pensionnaires. La localisation des malades était portée sur une carte punaisée au mur. On les avait répartis dans les petites maisons aux cloisons de papier que Peggy avait remarquées en sortant de l'ascenseur. « Ils s'occupent en jardinant, expliqua Poppy, ou en apprenant l'art des bouquets. Mais la plupart du temps, tu les verras immobiles, regardant autour d'eux avec des yeux écarquillés. Ça se produit quand ils sont sous l'influence des médicaments. Ils ont soudain l'illusion d'être tout petits, perdus au milieu d'un espace gigantesque. À ce moment-là, ça leur paraît réel. Certains m'ont confié que ça leur donnait le vertige. En fait, c'est le but de la cure, les amener à haïr les grands espaces. Soigner la claustrophobie par l'agoraphobie. Lorsqu'elles se retrouvent confrontées, les deux tendances s'annulent et le mec redevient normal.
Pas con, hein ?
Ouais, se contenta de grogner Peggy.
Bon, conclut Poppy, faut te changer.
Pas question de se balader ici en vêtements occidentaux. L'Oyabun a horreur de ça. D'un coffre, elle tira un kimono brun, des sockets et des tabis de coton blanc, ses chaussettes japonaises à orteils séparés. Peggy dut abandonner sa combinaison de nylon pour enfiler cet accoutrement dans lequel elle se sentit boudinée. Sans lui laisser le temps de souffler, Poppy lui colla un plateau de pilules dans les mains. La tournée commençait.
« Ici, s'excusa-t-elle, t'as intérêt à apprendre vite, sinon il t'expulse dans un secteur encore moins rigolo.
Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. En plus, on est obligé de coucher avec personne. » Elles se déplacèrent de maison en maison, multipliant les courbettes comme si elles étaient réellement au Japon. Lorsqu'on se présentait au seuil d'une pièce, il fallait s'incliner et réciter la formule
« Shitsurei Shimash ».
Au moment de sortir, on répétait le salut en disant cette fois « Shitsurei Shimashita ». Poppy donnait l'impression d'avoir pratiqué ses rites toute sa vie. Peggy envia ses capacités d'adaptation. Chaque unité de soins était placée sous la responsabilité d'un surveillant ou d'une surveillante asiatique qui faisait également office de professeur pour les activités de loisirs. Ces sensei enseignaient l'art des bouquets, la science des jardins zen, la cérémonie du thé, le tai chi chuan, la taille des bonsaïs, la calligraphie, discipline censée aider les malades à recouvrer la sérénité. Les maisons ne pratiquaient pas la mixité. Hommes et femmes se rencontraient lors d'un repas collectif ayant lieu le dimanche. Le menu était lui aussi d'inspiration japonaise et se composait invariablement de riz, de poisson cru, de légumes au vinaigre et de prunes salées. Poppy saluait chaque patient en s'inclinant, puis lui présentait les médicaments.
Quand l'homme ou la femme les avait avalés, elle les priait, avec un sourire d'excuse typiquement oriental, d'ouvrir la bouche pour qu'elle puisse examiner le dessous de la langue et le creux des joues. Quelques-uns, se croyant drôles, en profitaient pour faire des grimaces. Peggy dénombra une trentaine de malades. Leurs âges s'échelonnaient entre 30 et 55 ans. Il y avait autant d'hommes que de femmes. La plupart avaient le regard égaré d'un chat surpris au milieu de la route par les phares d'une automobile lancée à pleine vitesse. Ils parlaient peu. Lorsque, plus tard, Peggy consulta leur fiche d'admission, elle s'aperçut qu'ils étaient enregistrés sous des pseudonymes japonais fantaisistes, sans mention de spécialité. La tournée terminée, les deux jeunes femmes regagnèrent la pharmacie. Poppy lui fit voir le local où elles dormiraient. Une chambre minuscule au sol recouvert de tatami. Des futons roulés avaient été entreposés dans une niche près du tokonama, cet hôtel intérieur décoré de fleurs ou d'estampes. « Il faut toujours avoir l'air occupé, » murmura Poppy, « sinon la vieille te tombe dessus. Une fois les médocs distribués, on fait la lessive ou on brosse le sol. Les Japonais ont l'obsession de la propreté. »«
D'accord, » soupira Poppy, « on fait comme tu dis, je ne veux pas avoir d'histoire. »«
Tout ça me va très bien, du moment qu'on n'est pas obligé de coucher avec l'oyabonne. » Elles pouffèrent de rire comme deux collégiennes.
Yumiko ne décolérait pas. Elle maudissait le sort de lui avoir, une fois de plus, jeté Peggy Mitchum dans les pattes. La présence de l'Américaine contrariait ses projets. En outre, elles allaient devoir se côtoyer et partager la même chambre, et Yumiko tremblait à l'idée de se trahir. Tôt ou tard, les nanoparticules se laisseraient aller à quelques fantaisies. Peggy saurait interpréter ses symptômes. Il lui faudrait moins d'une minute pour comprendre que la pseudo-Poppy Warlow était en réalité un agent du Destroy. Elle s'étonnerait de sa présence en ces lieux, des questions embarrassantes s'en suivraient, auxquelles Yumiko ne pourrait répondre de manière convaincante. Or, à l'heure présente, la japonaise ne tenait nullement à affronter sa rivale. Elle avait d'autres soucis en tête. Elle voulait mettre la main sur le secret de l'immortalité. C'était son unique priorité. Elle ne pouvait pas courir le risque d'être blessée au cours du combat l'opposant à son ennemi. Par ailleurs, elle ne nourrissait aucune illusion sur son état. Ses capacités d'autosurveillance avaient baissé. Elle avait failli se trahir à plusieurs reprises par sa pratique instinctive des habitudes nippones. Une fois, elle avait réalisé avec horreur qu'elle était en train de déchiffrer à haute voix un mode d'emploi rédigé en idéogramme. Par chance, Peggy, qui regardait ailleurs, ne s'en était pas aperçue. Non, elle n'était plus au mieux de sa forme. Jamais dans le passé elle n'aurait commis une telle bévue. Voilà pourquoi elle ne pouvait s'embarrasser plus longtemps de la présence de l'Américaine. Elle devait se défaire d'elle le plus vite possible, sans toutefois devenir suspecte. Les médicaments lui avaient fourni la solution rêvée. Elle savait désormais comment, en toute impunité, elle allait assassiner Peggy Mitchum.